Chapitre 4. Ce que Diogène pouvait dire sur les catacombes. Tout ce que nous avons dit à nos lecteurs sur la première période de l'histoire de la Rome souterraine, comme les archéologues ecclésiastiques se plaisent à nommer les catacombes, a sans doute été mieux raconté que nous n'avons pu le faire par Diogène à ses jeunes auditeurs, tandis que, la torche à la main, il suivait lentement une longue galerie droite, traversée par un grand nombre d'autres galeries où nos pèlerins se gardaient d'entrer. Ils firent de nombreuses haltes, et naturellement, à chacune de ces haltes, vinrent des explications sur ce que nous avons si prosaïquement raconté dans notre second chapitre. Enfin, Diogène tourna à droite, et Torquatus regarda curieusement autour de lui. Je désirerais bien savoir combien d'allées nous avons laissé passer avant de quitter cette immense galerie.
Un très grand nombre, répondit sèchement Sévérus.
Combien croyez-vous à peu près? 10 ou 20?
20 au moins, je suppose, car je ne les ai jamais comptés.
Torquatus avait fait son calcul, mais il désirait le vérifier. Il continua donc après une pause.
Dans ce cas, comment distinguez-vous quand il faut tourner à droite?
« Ah, qu'est-ce donc que ceci ?»
Et il feignait d'aller examiner une petite niche placée dans un coin du chœur.
Mais Sévérus, qui ne le quittait pas du regard, le vit se baisser pour faire une marque sur le sable.
« Allons, venez, dit-il, ou nous perdons de vue le reste de la petite caravane et nous ne verrons plus quelle route ils prennent. Cette petite niche est destinée à contenir une lampe. Vous en trouverez une semblable à chaque angle. » Nous sommes aussi familiers avec les allées et les détours de la cité souterraine que vous pouvez l'être avec les rues de la ville d'en haut.
Torquatus parut satisfait des renseignements qu'on lui donnait sur les lampes. Ces petites lampes de terre étaient faites évidemment pour les catacombes et on en retrouve encore un grand nombre. Mais Torquatus n'était point encore sûr de sa route et il continuait à compter chacun des détours qu'il parcourait et, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, il s'arrêtait et marquait scrupuleusement les endroits et les angles particuliers. L'œil de lynx de Sévérus restait attaché sur lui et rien n'échappait à son attention vigilante. À la fin, ils franchirent une porte et se trouvèrent dans une pièce carrée, richement ornée de peintures.
« Comment appelez-vous cet endroit ? » demanda Tiburtius.
« C'est une des nombreuses cryptes ou cubicula qui abondent dans nos cimetières. » répondit Diogène. Quelquefois, ce sont de simples sépultures de famille, mais généralement, elles contiennent la tombe de quelques martyrs, et nous nous y réunissons pour célébrer le jour de son anniversaire. Regardez cette tombe en face de nous. Quoique placée en saillie de la muraille, elle est surmontée d'une arche. Au jour de l'anniversaire, cette pierre devient un autel sur lequel on célèbre les divins mystères. Vous savez sans doute d'où vient cet usage ?
Peut-être que mes deux amis, qui sont baptisés depuis si peu de temps, l'ignorent. Mais moi, je le leur dirai, répondit Pancratius. C'est un des glorieux privilèges des martyrs que cette oblation du corps et du sang du Seigneur sur leurs propres cendres. Ils reposent ainsi sous les pieds de Dieu. Mais regardons avec soin les peintures qui entourent la crypte. C'est à cause de ces peintures que je vous ai fait entrer dans cette crypte de préférence à tant d'autres de ce cimetière. C'est une des plus anciennes et elle contient la plus complète série de peintures qu'on ait conservées depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, car mon fils en a exécuté plusieurs.
Alors Diogène, demanda Pancratius, donnez à mes amis des explications méthodiques sur ces peintures.
J'en connais un grand nombre, mais je ne les connais pas toutes et je serais enchanté d'entendre ces explications.
Je ne suis pas un savant, répliqua modestement le vieillard. Mais quand on a vécu 60 années au milieu de choses comme celle-ci, on doit les connaître mieux que les autres parce qu'on les aime plus. Je suppose que tous ceux qui sont ici ont été complètement initiés, ajouta-t-il avec une pause.
Tous le sont, répondit Tiburtius, quoique nous ne soyons pas aussi instruits que des convertis ordinaires, Torquatus et moi, nous avons reçu le don sacré.
Il suffit, interrompit le fossoyeur. Les peintures du plafond sont naturellement les plus anciennes. Elles remontent à l'époque où la crypte fut creusée, tandis que les murailles ne furent décorées qu'à l'époque de la fondation des tombes. Vous voyez, en haut de la voûte, une peinture représentant une sorte de treillis,
sur lequel court une vigne chargée de raisins, image de la vigne sacrée dont nous sommes les branches. Ici, vous voyez Orphée assis et charmant par les sons harmonieux de sa douce musique, non seulement son propre troupeau, mais les animaux sauvages du désert eux-mêmes. Pourquoi donc avoir placé ici une peinture païenne ? Demanda Torquatus, avec un ton où la suffisance se mêlait au sarcasme. Qu'est-ce que cela a de commun avec le christianisme ? C'est une allégorie qu'on emploie souvent, Torquatus, répliqua Pancratius avec sa douce voix. L'emploi des images païennes est permis quand elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ainsi, vous voyez au plafond des masques et d'autres ornements qui viennent en général d'une période très reculée. C'est ainsi que notre Seigneur était représenté sous la figure symbolique d'Orphée, afin de dérober sa personne sacrée au blasphème sacrilège des gentils. Regardez à présent dans cette arche, vous avez un symbole plus récent du même sujet. « Je vois, dit Torquatus, un berger avec un agneau sur les épaules. Le bon pasteur a ce que je crois. Je me rappelle la parabole. » Mais pourquoi ce sujet est-il si souvent représenté ? Demanda Tiburtius. « Je l'ai déjà vu dans d'autres cimetières. » « Si vous regardiez l'Arcosolium, répondit Severus, vous auriez une représentation complète de la scène. Mais je crois que nous ferions mieux de continuer d'abord ce que nous avons commencé, l'examen des peintures du plafond. Voyez-vous cette figure à droite ?»« Oui, répondit Tiburtius, c'est l'image d'un homme qui paraît dans un coffre, tandis qu'une colombe vole vers lui. N'est-ce pas ainsi qu'on représente le déluge ?» « Justement, dit Severus, c'est aussi l'emblème de la régénération par l'eau et le Saint-Esprit et de la rédemption du monde. Voilà notre commencement et voici notre fin. Jonas, jeté du bateau et englouti par la baleine, assis ensuite dans la joie et la paix sous son calebassier, image de la résurrection avec notre Seigneur et de la paix éternelle qui suit cette résurrection. Que ces peintures sont bien placées dans cet endroit !» pensa Pancratius, indiquant un autre panneau. « Ici, nous avons un autre type de la même consolante doctrine. »« Où donc ?» demanda languissamment Torquatus. « Je ne vois qu'une figure tout enveloppée de bandelettes et debout comme un grand enfant dans un petit temple et une autre personne en face de celle-là. »« C'est bien cela, dit Severus. C'est ainsi que nous représentons toujours la résurrection de Lazare. » Regardez plus loin ce touchant emblème de l'espérance de nos pères au milieu des persécutions. Les trois enfants de Babylone dans la fournaise ardente. À présent, dit Torquatus, je pense que nous pouvons venir à l'Arcosolium et en finir avec cette chambre. Quelles sont les peintures qui l'entourent ? Si vous regardez du côté gauche, vous voyez la multiplication des pains et des poissons. Le poisson est, vous le voyez, le signe symbolique du Christ. Pourquoi donc ? Demanda Torquatus avec impatience. Severus se tourna vers Pancratius comme vers le plus instruit pour qu'il répondît à cette question. Il y a deux opinions sur l'origine de ce symbole, dit l'adolescent. On trouve la première de ses origines dans la composition de ce mot, dont les lettres grecques contiennent les initiales des noms de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'autre dérive du symbole lui-même. Elle rappelle que, de même que le poisson naît et vit dans l'eau, le chrétien renaît par l'eau dans le baptême, où il demeure enseveli avec le Christ. C'est pour cela que, pendant notre course, nous avons vu l'emblème du poisson, ou son nom seulement gravé sur les tombes. Maintenant, continuons, Severus. La multiplication des pains et des poissons nous rappelle comment, dans l'Eucharistie, le Christ devient la nourriture de tous. En face, vous apercevez Moïse frappant son rocher, d'où sort la source, à laquelle tous viennent se désaltérer, et qui est le Christ, notre breuvage comme notre nourriture. Enfin, dit Torquatus, nous voici au bon pasteur. Oui, continua Severus, vous le voyez au centre de l'Arcosolium, en simple tunique, avec une brebis sur les épaules, la brebis égarée du troupeau. Il en a deux autres à ses côtés, le bélier fainéant à sa droite, la douce brebis à sa gauche, et la brebis repentante occupe la place d'honneur. De chaque côté, vous voyez aussi deux personnages, envoyés évidemment par lui, pour prêcher. Ces deux hommes se penchent en avant, et s'adressent à des brebis qui ne font pas partie du troupeau. L'une de ces brebis ne paraît pas écouter les paroles et continue à brouter indolemment, tandis que l'autre, levant la tête et les yeux, écoute avec une attention empressée. La pluie les inonde. C'est la grâce de Dieu. Il n'est pas difficile d'interpréter cette peinture. Mais d'où vient que cet emblème est si souvent employé ? Demanda vivement Tiburtius. Nous croyons que cette peinture et les emblèmes analogues remontent au temps où l'hérésie de Novatus désolait l'Église, répondit Severus. Quelle était donc cette hérésie ? Demanda négligemment Torquatus, car il pensait qu'il perdait son temps. Selon cette hérésie, répondit Pancratius, il y aurait des fautes si graves que l'Église n'a pas le pouvoir de les absoudre, et cette théorie mettait ainsi des limites à la miséricorde de Dieu. Pancratius ne remarqua pas l'effet que produisaient ces paroles. Mais Severus, dont les yeux restaient attachés sur Torquatus, vit que le sang lui affluait violemment au visage. « Est-ce là une hérésie ? » demanda le traître confus. « Certes, et une affreuse hérésie que de limiter la miséricorde et le pardon de celui qui est venu pour appeler, non les justes, mais les pécheurs, au repentir. L'Église catholique enseigne qu'un pécheur, quelle que soit la noirceur et l'énormité de ses crimes, quel que soit leur nombre, peut obtenir son pardon, si, vraiment repentant, il a recours au remède de la pénitence qui est entre les mains de l'Église. C'est de là que vient sa prédilection pour le type du bon pasteur, prêt à courir jusqu'au désert pour amener une brebis égarée. Mais supposons, demanda Torquatus, évidemment ému, supposons qu'un homme qui est devenu chrétien, après avoir reçu le don sacré, retombe, se plonge dans le vice et... Sa voix trembla. Trahisse presque ses frères. L'Église ne le rejetterait-elle pas en le laissant sans espoir ? Non, répondit l'adolescent, ce sont là les crimes que les Novatiens reprochaient aux catholiques de pardonner. L'Église est une mère dont les bras sont toujours ouverts pour embrasser ses enfants égarés. Dans l'œil de Torquatus, une larme vint à trembler. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour laisser passer l'aveu de son crime, mais comme si un noir poison, lui montant du cœur à la gorge, eût étouffé l'aveu au passage, il s'arrêta. Son accent, son regard, tout changea en lui. L'obstination et l'endurcissement se peignaient dans sa physionomie. Il mordit sa lèvre mince et dit en affectant le calme « C'est là certainement une doctrine consolante pour ceux qui ont besoin d'y recourir. » Severus seul avait observé que l'appel de la grâce avait été méconnu et qu'une pensée désespérée était venue éteindre dans le cœur de cet homme la dernière lueur d'espoir. Diogène et Maïus, qui, en moment, s'étaient absentés pour aller reconnaître la place où l'on pourrait ouvrir une nouvelle galerie, revenaient en ce moment. Torquatus dit alors, en s'adressant au vieux fossoyeur en chef, « Maintenant que nous avons vu les galeries et les salles, je désirerais bien visiter l'église dans laquelle nous devons nous assembler. » Le vieillard, sans défiance, allait céder à ce désir, mais l'inexorable Severus intervint pour s'y opposer. « Je pense, mon père, qu'il est trop tard pour entreprendre aujourd'hui cette visite, » dit-il. « Vous savez que nous avons beaucoup à travailler. Nos jeunes amis nous excuseront, ils verront l'Église dans une meilleure occasion quand le souverain pontife y viendra officier, comme il a l'intention de le faire. » Chacun se soumit à cette décision. Quand ils arrivèrent au point où ils avaient quitté la galerie de droite pour visiter la salle ornée de peinture, Diogène arrêta la caravane, s'avança de quelques pas dans un passage situé à l'opposé, en disant « Si vous preniez ce corridor et que vous tourniez à droite, vous arriveriez à l'église. Je vous ai seulement amené par ici pour vous montrer un arcosolium avec une belle peinture. Vous voyez la Vierge Mère tenant le divin enfant dans ses bras, pendant que les sages de l'Orient, qui sont ici au nombre de 4 au lieu de 3 qu'on représente ordinairement, l'adorent en silence. » Tous les jeunes gens admirèrent cette peinture, mais le pauvre Severus était tout affligé de voir que son bon père avait fourni, sans le savoir, le renseignement que Torquatus désirait. Il lui avait, en effet, donné un excellent moyen de retrouver son chemin, en appelant son attention sur la tombe que les peintures remarquables qui l'entouraient distinguaient des autres. Quand la petite caravane se fut séparée, Sévérus dit à son frère tout ce qu'il avait observé, en ajoutant « Cet homme nous fera prochainement du mal. Il m'est étrangement suspect. » Il leur fallut peu de temps pour effacer les marques que Torquatus avait tracées à chaque endroit où l'on tournait. Mais ils ne crurent pas avoir assez fait pour dépister le traître sur lequel se portaient leurs soupçons. Ils résolurent de changer le chemin en comblant celui qui existait et en faisant partir une voie nouvelle d'un autre point. Pour réaliser leur projet, ils prirent le sable extrait des nouvelles excavations et le portèrent au bout de la galerie qui s'entr'ouvrait avec la grande avenue, et ils le déposèrent là jusqu'à ce que les fidèles puissent être instruits du changement projeté.